l'heure pour vous de retrouver le journal d'Antoine. Merci Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le programme commun de gouvernement du mouvement 5 étoiles et de la Ligue pour diriger l'Italie, publié ce matin. Il pose le décor d'une confrontation avec l'Europe. On en parle tout à l'heure avec Marie-Pierre Véraud et notre invitée Ludmila Akone, qui est historienne spécialiste de l'Italie. Le président égyptien ordonne l'ouverture exceptionnelle pendant le mois de Ramadan de la frontière avec Gaza. À Jérusalem, les Palestiniens célèbrent le premier vendredi du mois de Ramadan. On sera en ligne avec Étienne Monin, un collectif tunisien. L'association de défense des droits appelle, eux, les autorités à protéger la liberté de conscience et de religion en autorisant par exemple à manger ou à fumer en public durant ce mois. Précision d'Elie Abergel dans cette édition. Et puis un nouvel attentat à l'explosif ou au poison aurait été déjoué en France. C'est ce qu'annonce en tout cas le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Deux Égyptiens arrêtés la semaine dernière. L'un d'entre eux a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes, criminels et écroués. L'enquête de Florence Turm dans cette édition. Et puis donc l'invité de la séquence interview sur la situation actuelle politique en Italie où les populistes révèlent un programme de gouvernement plutôt anti-austérité. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Le cerveau musical en immersion, idées reçues et avancées des neurosciences sur le sujet avec le français chantant de la québécoise Isabelle Peretz, notre invité à partir de 12h55.
Voilà donc le programme, il est arrivé, le mouvement 5 étoiles révèle ce matin sur Internet ce programme commun de gouvernement conclu avec la Ligue. Il appelle à une révision des règles de gouvernance européenne, pose le décor en fait d'une confrontation avec les partenaires européens de l'Italie, tournant en tout cas résolument le dos à l'austérité, sans toutefois qu'il y ait de projet de sortie de l'euro ou même de référendum sur la question dans cet accord, Marie-Pierre Véraud.
Voilà, la ligne rouge qui mènerait droit au précipice n'est pas franchie, mais quand même c'est un programme qui affiche à quel point il est éloigné de la philosophie bruxelloise. Il est écrit ainsi dans la présentation générale. L'action du gouvernement visera un programme de réduction de la dette publique, non par des recettes fondées sur les impôts et austérité des politiques qui n'ont pas atteint leur objectif, mais plutôt via l'augmentation du PIB à travers la relance de la demande interne. Nous y voilà. C'est un programme plutôt keynésien. Donc, le revenu citoyen promis par le mouvement 5 étoiles serait mis en place, 780 euros par mois. L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ramené à deux tranches, 15 et 20%. Cela, c'était voulu par la Ligue. Et rien que ces deux mesures pourraient coûter plusieurs dizaines de milliards d'euros au budget italien. Il y a aussi la réforme des retraites abrogée. Elle prévoyait de repousser à 67 ans l'âge légal de départ dans l'un des pays les plus vieux au monde, derrière le Japon. Alors, si le projet très coûteux de liaison Lyon-Turin à grande vitesse serait réexaminé, la coalition souhaite en revanche relancer la compagnie nationale aérienne Alitalia. Voilà tout cela qui risque fort de creuser la dette qui dépasse déjà les 130% du PIB. Mais les deux formations réclament, ce qui va encore faire hurler à Bruxelles, que ces dépenses d'investissement ne soient pas prises en compte dans le calcul du ratio entre la dette et le PIB, histoire de rester dans les clous du pacte de stabilité qui prévoit un déficit de 3% du PIB. Alors, comment cette inévitable confrontation avec l'orthodoxie bruxelloise peut évoluer? Eh bien, on se souvient de la Grèce. Après avoir contesté les règles de l'Union pendant plusieurs mois, elle avait dû rentrer dans le rang. Mais là, les termes du débat avec l'Italie, ce ne sont pas les mêmes. C'est une économie beaucoup plus importante qu'on ne peut prendre le risque de laisser s'effondrer ou qu'on aura du mal à laisser partir. Donc, il va falloir négocier avec l'Italie. Et là, on n'a parlé que d'économie. Mais il y a aussi toutes les questions d'immigration, de questions géopolitiques sur lesquelles, encore une fois, ils entrent en confrontation avec la volonté de l'Union européenne.
Marie-Pierre Véraud, merci beaucoup pour ces premières explications. Salut l'invité de la séquence interview, l'historienne Ludmila Akone. Bonjour madame.
Bonjour.
Bon, alors, ligne rouge avec l'Europe sur l'orthodoxie financière, sur la manière dont l'Europe définit sa ligne politique pour l'ensemble des États membres. Est-ce que vous diriez qu'elles sont franchies ces lignes ou certaines de ces lignes?
Sur le texte qui a été soumis aux Italiens, non, pour l'instant. À moins que, voilà, il faudrait faire un calcul budgétaire très fin pour voir un petit peu quel est l'état des choses.
Donc ils sont efforcés de ne pas précisément.
Ils ont revu leur copie jusqu'à hier soir, à la dernière minute. Il y a un certain nombre de paragraphes qui ont sauté, notamment celui de du référendum sur les traités européens. Ça a été revu, ça a été abrogé, enfin, ça a été enlevé dans la, il y a eu plusieurs moutures. Donc on a eu effectivement dès hier soir et ce matin, ce texte a été soumis aux Italiens. Par la plateforme informatique de 5 étoiles. Le vote est ouvert dès ce matin jusqu'à 8 heures. Et pour ce qui est de la Ligue du Nord, eux, ils vont consulter leur base et les citoyens dans les rues.
Alors ça, c'est les votes des militants. Hein.
Oui.
Donc, pas forcément.
Pas aussi.
Est-ce qu'il y a un risque que ce soit rejeté ou c'est plutôt logique que finalement les militants, enfin ceux qui sont consultés, suivent ce programme ?
Eh bien, la situation économique et sociale est extrêmement difficile en Italie. Elle a été aggravée très particulièrement par la corruption endémique et par la mafia. Donc on peut penser qu'un certain nombre de mesures de relance de l'économie et de lutte contre la fraude fiscale, contre le conflit d'intérêts, la corruption, soient bienvenues pour les citoyens. Ils sont très mécontents, les citoyens italiens. Et c'est le vote qui l'a prouvé, celui du 4 mars.
Donc, et ce qui a rassemblé précisément ces deux partis,
c'est
vraiment la notion qu'on reprenait malgré tout, une sorte de pouvoir de souveraineté de l'Italie par rapport à l'Europe. Et c'est précisément là qu'il a fallu fixer finalement une limite jusqu'où la reprendre sans froisser ou contrevenir à des règles européennes fondamentales.
Oui, ce qui était étonnant, c'est que l'Italie a toujours été très europhile, hein, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et le sentiment anti-européen a grimpé de plus en plus, et notamment à partir de la crise de 2008, et il est devenu un argument politique majeur.
Comment vous voyez la suite, en quelques mots, là, maintenant ?
Je pense que la situation est très mouvante. Nous ne savons pas très bien. La Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles, ils font appel aux citoyens. Et c'est dans cette façon de renverser totalement le fonctionnement des institutions et de la politique qu'ils arrivent, quelque part, à avoir des consensus. Est-ce que ces consensus vont se répercuter dans quelque chose de concret ? On le verra. Mais il est clair que le fait même de proposer un programme, de le proposer aux citoyens avant même le choix du président du Conseil et passant par-dessus les règles habituelles, c'est une volonté à la fois de montrer nous ne sommes pas comme les autres, comme ceux qui nous ont précédés, nous changeons tout. Et c'est ce que dit Di Maio, c'est la Troisième République, c'est tout un changement total de point de vue.
Dont on reparle tout à l'heure dans la séquence interview, Ludmila Akone, merci beaucoup pour ce premier commentaire. La suite des répressions, de la répression dans la bande de Gaza à l'occasion du Ramadan, le président égyptien ordonne l'ouverture exceptionnelle de la frontière avec Gaza, levé donc du blocus sur cette frontière avec l'Égypte pour un mois. Abdel Fattah al-Sissi indique sur sa page Facebook que cette décision a été prise pour alléger les souffrances des habitants de l'enclave palestinienne. La Ligue arabe réclame une enquête internationale sur les violences donc de cette semaine, idée soutenue par le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, selon qui la réponse d'Israël aux manifestations palestiniennes à Gaza a été, je cite, totalement disproportionnée. Et puis le président turc Recep Tayyip Erdogan accueille aujourd'hui des dirigeants du monde musulman pour faire condamner l'État hébreu, mais peu de mesures sans doute concrètes à attendre en raison des très nombreuses divisions au sein du monde musulman sur cette question. On retrouve à Jérusalem maintenant Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Oui, donc vous êtes actuellement devant l'esplanade des mosquées. Les Palestiniens célèbrent ce premier vendredi du mois de Ramadan avec une prière qui a un peu valeur de symbole, évidemment, après les récents événements.
Oui, c'est un moment de communion après cette semaine violente pour la cause palestinienne. Les fidèles sont nombreux maintenant à sortir. La foule était compacte tout à l'heure. Il y a beaucoup de Palestiniens venus de Cisjordanie, beaucoup d'habitants de Jérusalem. Les restrictions d'âge ont été placées pour les hommes de plus de 40 ans qui ne sont pas autorisés à accéder au site. Le dispositif policier est important. C'est une journée lumineuse. Il fait plus de 30 degrés au soleil, mais l'ambiance de fête traditionnelle est affecté par l'ambassade américaine et par Gaza. Les Palestiniens rencontrés disent qu'ils ont le sentiment que l'occupation israélienne se renforce. L'atmosphère est à la résignation. Ce que l'on peut faire maintenant, disait tout à l'heure un jeune Palestinien, finalement, c'est résister en restant à Jérusalem, en restant dans nos maisons. Dans ce contexte, Al-Aqsa et l'esplanade des mosquées restent le dernier bastion palestinien dans Jérusalem. Ici, c'est le seul lieu capable encore de mobiliser les foules quand les Israéliens tentent de changer les règles d'accès ou de gestion. Cette prière est donc aussi le repli des Palestiniens dans leur dernier carré à Jérusalem.
Merci beaucoup. Étienne Monin, donc, en direct avec nous pour ce journal en direct de Jérusalem. Un collectif tunisien d'associations de défense des droits de l'homme appelle ce matin, dans une lettre ouverte, les autorités à protéger, disent-ils, la liberté de conscience et de religion. en autorisant notamment à fumer, à manger en public durant ce mois de Ramadan. Chaque année, les Tunisiens sont arrêtés pour avoir mangé ou fumé durant le jeûne en vertu de textes. Ils sont assez flous d'ailleurs sur l'outrage aux bonnes mœurs et le circulaire qui remonte à plusieurs dizaines d'années, Elia Bergel.
Aucune loi n'interdit dans les faits de manger ou de boire pendant le Ramadan en Tunisie, mais c'est en vertu d'une circulaire datant de 1981 que les forces de l'ordre et les magistrats tunisiens peuvent punir ceux qui ne respectent pas le jeûne. Le texte ordonne la fermeture des cafés pendant le mois du Ramadan au motif que cela pourrait choquer ceux qui jeûnent et provoquer des attentats. Mais problème, impossible de mettre la main sur cette fameuse circulaire car le système juridique tunisien ne prévoit pas leur publication au journal officiel ou ailleurs. Difficile donc pour les associations de contester ou d'attaquer le texte en justice. Par ailleurs, policiers et magistrats invoquent également l'article 226 du code pénal tunisien, un article qui mentionne assez vaguement la protection de la moralité et la pudeur publique, un texte qui permet donc une interprétation très large. L'article date de 1913 et prévoit 6 mois de prison en cas d'infraction. Constaté, l'année dernière par exemple, 5 Tunisiens ont été condamnés à un mois de prison pour non-respect du Ramadan, une situation inacceptable pour les ONG tunisiennes. Beaucoup ont encore en tête le passage d'Habib Bourguiba à la télévision en 1958. Le père de l'indépendance tunisienne avait bu un jus d'orange à l'antenne en plein mois du Ramadan. Il appelait alors à la liberté de conscience et à faire du travail la priorité pour la Tunisie.
Elia Bergel, merci. Au Venezuela, la campagne présidentielle s'est achevée hier soir. Il y a plus de 20 millions de citoyens, de Vénézuéliens qui sont appelés à voter ce dimanche. Présidentielle anticipée, un seul tour. Le chef de l'État, Nicolas Maduro, brigue un nouveau mandat de 6 ans. Il est en fait assuré de l'emporter dans un scrutin qui est boycotté par l'opposition. La correspondance à Caracas de Julien González.
Une chose est sûre, la campagne a été loin de déchaîner les foules, si ce n'est ces deux derniers jours où les candidats ont su rassembler un peu plus leurs troupes. Diego Maradona à ses côtés, le chef de l'État et candidat Nicolas Maduro a promis devant ses partisans à Caracas une révolution économique qui va secouer le monde entier. Un président sûr de sa victoire alors que la coalition d'opposition et la communauté internationale multiplient les critiques contre le scrutin. La coalition d'opposition a en effet une nouvelle fois répété ce jeudi qu'elle refusait de participer au vote de ce dimanche, qu'elle juge être une fraude, car elle considère notamment que les conditions pour un scrutin libre, démocratique et transparent ne sont pas réunies. Et sur la scène internationale récemment, le groupe de Lima, ce rassemblement de près d'une quinzaine de pays du continent américain, a par exemple lancé cette semaine un dernier appel à suspendre l'élection. Une élection où Henry Falcon, le principal adversaire de Nicolas Maduro, martèle que la dollarisation de l'économie est le remède à l'hyperinflation. À la conquête du vote d'une partie de l'opposition et des chavistes déçus, il tenait quant à lui son dernier meeting dans l'état de Lara, qu'il a gouverné pendant plus de 8 ans. Un candidat de plus en plus talonné dans les intentions de vote par Javier Bertucci, le pasteur évangélique qui a fait campagne en offrant des soupes et qui n'a cessé de grimper dans les sondages, des sondages qui montrent surtout que l'abstention pourrait être très forte, elle pourrait avoisiner 40 à 50%, soit plus du double que lors de la présidentielle de 2013.
Julien González, donc correspondant de RFI au Venezuela. 10h44, l'actualité en France avec le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb qui annonce ce matin qu'un nouvel attentat à l'explosif ou au poison a été déjoué en France après l'arrestation la semaine dernière de deux Égyptiens à Paris. L'un d'entre eux a été mis en examen d'ailleurs pour association de malfaiteurs terroristes criminels et écroué. L'autre a été mis hors de cause et remis en liberté. On écoute d'abord l'annonce du ministre ce matin, c'était sur BFM TV.
Il y avait deux jeunes gens d'origine égyptienne qui s'apprêtaient à commettre un attentat et donc avec soit de l'explosif, soit la ricine, ce poison évidemment très très fort.
Un attentat au poison des...
Ils avaient des tutoriels qui indiquaient comment construire effectivement les poisons à base de ricine. Ils étaient deux frères.
Comment ces deux hommes ont été interpellés et pourquoi? Alors,
si vous voulez, parce que évidemment on suit un certain nombre de personnes sur des réseaux. Il se trouve qu'ils étaient sur Telegram. Et donc nous avons pu déceler ce projet d'attentat et nous avons pu les arrêter.
Gérard Collomb, donc, avec Jean-Jacques Bourdin. Bonjour Florence Thurme.
Bonjour.
Annonce du ministre qui comporte quand même quelques petites imprécisions.
Oui, ce qui frappe d'abord, c'est d'un point de vue factuel, l'imprécision. Deux frères d'origine égyptienne qui s'apprêtaient à commettre un attentat. Où, quand, comment? Gérard Collomb ne le dit pas. Attentat à l'explosif ou à la ricine. Le ministre ne précise pas non plus la nature exacte du projet. Ce qui frappe ensuite, ce sont les erreurs contenues dans cette communication. Le parquet de Paris confirme bien l'intervention de la police dans le 18e arrondissement parisien, vendredi dernier, chez un étudiant égyptien en situation régulière. Son interpellation ainsi que celle d'un autre homme, mais qui n'est pas son frère. De plus, ce deuxième homme a été rapidement mis hors de cause et relâché. L'étudiant en question lui a été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et écroué mardi. De sources proches de l'enquête, on indique, comme l'a fait le ministre, que l'exploitation de son téléphone a mis en évidence la présence de tutoriels de fabrication d'explosifs et de poisons. À ce stade, on ignore encore si le suspect était fiché S ou inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Les enquêteurs parlent, cela dit, d'un individu très déterminé chez qui ils ont retrouvé des pétards et de la poudre noire, mais pas de ricine. Ce qui frappe enfin, ou plutôt interroge, c'est le sens de cette communication. On en comprend bien l'intention politique dans un contexte marqué par l'attaque meurtrière du week-end dernier à Paris, dire que la police fait bien son travail, que le gouvernement agit. Mais qu'en est-il de l'imprécision et des erreurs, avec même le spectre du bioterrorisme qui surgit à travers la mention de la ricine, utilisée comme poison dans les années 80 par les services secrets bulgares, ou plus récemment en 2013 dans deux lettres adressées au Sénat et à l'ancien président américain Barack Obama. L'objectif visé de rassurer l'opinion publique pourrait ainsi produire exactement l'effet inverse, en créant un sentiment d'insécurité encore plus fort, ce qui reste au demeurant un objectif bien réel du terrorisme.
Florence Thurme, merci bien pour ces premières explications sur les déclarations donc du ministre ce matin. Le Premier ministre, lui, adresse un rappel à l'ordre, à peine voilé, à Gérard Collomb, qui a manifesté par ailleurs ses réserves quant à la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Monsieur Philippe rappelle que cette mesure est controversée et qu'elle a été débattue et assumée par l'ensemble du gouvernement. Quand on a l'honneur d'exercer des responsabilités publiques, dit-il, il faut parfois choisir entre de mauvaises décisions qui rendent populaires et des décisions bonnes qui rendent impopulaires. C'est ce qu'il affirme en marge d'un déplacement à Strasbourg. Deux personnes âgées sont mortes dans la salle d'attente des urgences de Tours à 15 jours d'intervalle. Atteintes de pathologies assez graves et plutôt en fin de vie, elles sont restées en tout cas entre 4 heures et 6 heures dans cette salle d'attente où elles sont mortes. Et le personnel s'est dit évidemment choqué et aurait aimé pouvoir les accompagner plus dignement. La correspondance de Johan Nicolas de France Bleu Touraine.
C'est un phénomène exceptionnel, c'est ainsi que le professeur Pierre-François Dequin, responsable des urgences, évoque ces deux décès de patientes, des personnes de près de 90 ans en fin de vie en raison d'une pathologie assez grave. Ces deux patientes sont mortes dans une salle d'attente bondée. Il y avait entre 12 et 15 brancards ce soir-là, alors que la salle d'attente peut en accueillir 6. La première patiente est restée plus de 6 heures sur le brancard, la deuxième plus de 4 heures. Les équipes médicales sont meurtries, choquées, blessées par ces décès indignes, ce que partage le chef des urgences. Le personnel aurait voulu accompagner dignement ses patientes, mais le professeur Dequin explique que ce soir-là, il y avait malheureusement des cas plus graves à gérer. Pour être totalement transparent, les familles des deux personnes âgées décédées ont été prévenues par le médecin de garde, puis reçues par le chef de service et la direction. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'un événement exceptionnel de ce type arrive. Un autre décès dans les mêmes circonstances est arrivé en 2009, selon le professeur Dequin, qui reconnaît une réelle et constante saturation des urgences.
Midi 49 sur France Culture, on revient vers notre invitée Ludmila Accone, qui est historienne, donc spécialiste de l'Italie, pour revenir sur cet accord trouvé, ce programme entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Comment est-ce que l'on peut comprendre, Madame Accone, cette association finalement assez curieuse? On dit deux populismes, certes, mais quand même très différents. Mouvement 5 étoiles d'un côté, Ligue d'extrême droite de l'autre. Comment caractérisez-vous ce moment sur le plan politique de cette association?
Ce sont deux partis qui naissent de contextes totalement différents. D'abord, la Ligue est, comme le disait son ancien nom, Ligue du Nord, qui aujourd'hui est Ligue. Il est structuré dans le nord de l'Italie. Le 5 étoiles, mouvement 5 étoiles, il est surtout dans le sud et en partie dans le centre. Donc il y a déjà une caractérisation géographique très différente parce qu'il y a une situation très différente dans les deux pays, dans les deux parties du pays. Et c'est vrai qu'on revient à un clivage qui existe depuis l'unité italienne, hein, et même avant. Donc c'est quand même même est paradoxal que nous en soyons là. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun se faire appel aux citoyens. La volonté de dire plus jamais les vieilles façons de faire politique, plus jamais les dirigeants, c'est les citoyens qui doivent décider, pas les institutions européennes, pas des gens au-dessus de nous.
Ouais, voilà. C'est un peu aussi ni gauche ni droite, parce que d'un côté, il y a ce revenu universel que souhaite mettre en place le mouvement 5 étoiles, et puis la Ligue a plutôt un programme de droite au niveau économique.
C'est un programme de droite, mais qui fait appel aux petits entrepreneurs, aux petits commerçants. Vous voyez, donc c'est plutôt la guerre, un petit peu, des petits contre les grands. Ce sont les défavorisés. Ce sont les laissés pour compte, quelque part, qui ont exprimé ce vote et qui se retrouvent dans ces deux parties.
Marie-Pierre Véraud.
Quelles sont les perspectives pour que ces mesures dont nous avons parlé, donc le revenu universel, la réforme fiscale, la réforme des retraites, soient effectivement mises en place, puisque le président italien Mattarella a le pouvoir, et il l'a dit, de s'opposer à des mesures qui ne seraient pas financées, donc qui creuseraient le déficit ou qui iraient à l'encontre des règles européennes.
Alors effectivement, il peut refuser de signer. On voit qu'il y a un effort pour rassurer de la part de ces deux parties. Il y a une instance qui a été créée de consultation avec les ministres concernés aussi pour éviter des problèmes et des conflits sur les mesures prises. Nous le verrons par la suite. C'est clair qu'il y a un rapport à trois entre ces deux leaders politiques et avec le président de la République. Il y a aussi quelque part une question vis-à-vis de l'Europe qui va être discuté, qui va être vu. Est-ce que ça va se passer bien ou pas? Ça, nous ne le savons pas. C'est aussi l'appel aux citoyens qui essayent d'intervenir. C'est-à-dire que les deux parties veulent faire appel aux citoyens pour les faire modifier le rapport de force dans ce sens.
Mais ces fameux citoyens en Italie, auxquels on se réfère, est-ce qu'eux, ils sont mobilisés véritablement de façon majoritaire dans cette expérience, ou est-ce qu'ils sont malgré tout assez loin?
Il y a une longue tradition de mobilisation en Italie à tous les niveaux, dans tous les mouvements sociaux, dans les syndicaux et depuis même avant la libération. Hein. Donc il y a aussi des modes de consultation qui sont la fameuse plateforme Rousseau de 5 étoiles. Il y a des gazebos, on les appelle comme ça en Italie, de la Ligue. Il y a des meetings, des rassemblements. Est-ce que ça va faire le poids? Nous n'en savons rien, mais il est clair que les citoyens italiens se sont exprimés de façon très bruyante dernièrement par rapport...
Pour vous, c'est quand même une révolution politique, malgré tout, en Italie et peut-être pour l'Europe aussi, ou ça va se normaliser?
Je ne sais pas si on peut parler de révolution politique, mais incontestablement, c'est une Troisième République, si c'est durable. Certains disent que ce gouvernement ne va pas durer. Tout dépend aussi de la force de frappe, si je puis me permettre, des oppositions, parce que même Berlusconi commence à critiquer très fortement ce programme de gouvernement.
Oui, c'est vrai que c'est assez frappant parce qu'il n'arrête pas de répéter, d'établir ce bras de fer avec l'Union européenne, de répéter qu'il faut écouter ce qui se dit dans les bars et pas dans les conseils d'administration. Donc est-ce que cette manière de jouer sur l'opinion publique contre des élites qui seraient un petit peu déconnectées des réalités peut changer la donne? On a bien vu qu'en Grèce, par exemple, ça n'avait pas fonctionné. Est-ce qu'en Italie, ce rapport de force peut avoir une autre issue?
Ça peut changer la donne, mais pas de la même manière au nord et au sud. C'est-à-dire qu'au sud, il y a une très longue tradition, mais dès le XVIIe siècle, hein, avec les révoltes de Masaniello, hein, vous voyez, contre le pouvoir reconstitué, dans le nord, elle peut prendre une caractérisation beaucoup plus proche de l'extrême droite.
Ah, vous faites allusion, vous êtes historienne, on le voit.
Oui.
Vous faites allusion à tout ça. Pour vous, cet épisode-là, il est vraiment, dans la lignée d'une logique aussi de l'histoire italienne. On retrouve des tas d'éléments, ça fait plusieurs fois que vous y faites allusion, c'est pour ça que je le souligne.
Oui, parce qu'il y a surtout dans le sud, depuis au moins le XVIIe siècle, la tendance de la population à se révolter de façon non organisée et non représentée officiellement contre le pouvoir institué, qui est considéré comme arbitraire, parce qu'effectivement, il y a eu des occupations étrangères, d'une part, les Espagnols notamment, mais aussi parce qu'on a considéré que l'État était totalement corrompu, et effectivement, c'est la mafia aussi qui a régné pendant très longtemps à partir de l'unité italienne.
S'il y a un bras de fer avec l'Europe, imaginons, est-ce que les Italiens sont prêts, à votre avis, à le tenir, ou est-ce que, malgré tout,
Je pense qu'il bascule entre deux choses. D'abord, un besoin de réassurance, un besoin d'être, d'une stabilité malgré tout. Et en même temps, cette impression, cette misère terrible, par exemple, qui frappe le Sud. Et vous voyez, quand Berlusconi parle du parti 5 étoiles en disant c'est le parti des chômeurs, c'est vraiment une gifle qui est donnée à des gens qui vivent dans des conditions désastreuses. Donc, il peut y avoir beaucoup de colère. Comment est-ce qu'elle va se manifester? Dans le Nord, il y a des craintes. Par exemple, Salvini, à plusieurs reprises, fait appel en disant qu'il risque d'y avoir des émeutes et qu'il risque de descendre à Rome si les choses ne se passent pas comme ils veulent. Ça, c'était avant l'accord de gouvernement.
Et puis, il y a ce revenu universel, quand même, il faut le signaler, qui est dans le programme commun. Hein, 780 euros par mois, tout de même. C'est quand même une première aussi.
C'est une première absolue. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comparer. Alors, je vous disais, effectivement, je suis historienne et en même temps, il y a des choses nouvelles. Il y a des tendances, bien entendu, mais il y a des choses nouvelles qui se mettent en place.
S'ils le mettent réellement en place, parce que 780 euros par mois, il n'y a pas de calendrier dans le programme de gouvernement pour l'instauration de cette mesure, ni pour celle de la réforme fiscale. C'est annoncé sans dire quand on le fera.
Non, c'est pour 2019, ils ont dit. Mais ils veulent récupérer de l'argent à la fois dans la dette, à la fois l'argent qui est soustrait à l'État italien par la fraude fiscale. Voilà.
Donc vous pouvez continuer, finissez votre phrase.
La fraude fiscale par des gâchis qui ont lieu et aussi surtout investissement, relance de la demande interne et du pouvoir d'achat des familles.
Voilà, donc entreprise, on a dit, politique plutôt keynésienne. Bon, évidemment, expérience très intéressante à suivre dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Ludmila Akone d'avoir accepté notre invitation. Un temps ensoleillé au nord, nuageux plutôt sur le sud, notamment sur les reliefs, température 14 à 26 degrés. Édition réalisée avec François-Charles Domergue, à 17h, le magazine de la rédaction. Mai 68, l'éphémère printemps de Prague. Reportage de Nadine Epstein, réalisé par Annie Brault, présenté par Aurélie Kiffer. 18h, prochain journal avec Benoît Bouscarel.